With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun. Hulk left. Slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 347 du podcast Jeune Actuel en Matéi. Très heureux de vous retrouver pour un de nos très nombreux podcasts du mois de mars-avril cru 2020 parce que oui, confinement égale beaucoup beaucoup plus d'émissions, nous sommes à 3 par semaine et pour ce mercredi puisqu'on enregistre le... Oui, on va pas mentir, on enregistre le mardi mais il est diffusé le mercredi. J'allais dire ce mercredi mais j'aime pas mentir, tu vois, même comme ça. Bon bref, je suis avec Grégory Richard, bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous.
Allô Paris, comment allez-vous?
Oh bah écoute, bien, bien. Il fait beau mais froid. Je sais pas comment ça se passe chez toi, mais...
pas de fièvre, tout va bien.
Pour l'instant, non, on touche du bois. Pour l'instant, bon. Ça va et on souhaite le meilleur également pour tous nos auditeurs, bien entendu.
Exactement, et n'oubliez pas, restez chez vous. C'est pour ça qu'on fait plein d'émissions, c'est pour rendre le confinement un peu plus agréable. Et encore une fois, on compatit, hein. Je tourne en rond. Je disais avant d'enregistrer à Grégory que je commençais un petit peu à en avoir marre et que j'étais à ça de commander un vélo d'appartement tellement j'ai des fourmis dans les jambes. Donc, les podcasts draft, c'est reparti. Alors, on a fait le top 15 la dernière fois, mais là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et comme on a décidé de vous offrir plus de contenu, on fait un épisode par poste. Je crois que les autres années, on faisait 2 postes par émission, grosso modo, puisqu'on faisait 4
émissions.
Oui, c'est
ça. On a fait un podcast attaque, un podcast défense. On a fait 2 podcasts attaque, 2 podcasts défense. On sent l'arsenal lourd, on va dire, cette année.
Toujours plus de contenu. Donc, on commence par les quarterbacks, bien évidemment, parce que c'est glamour. Les 5 meilleurs, les énigmes, les bonnes affaires, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, la construction des podcasts par poste changera parfois. C'est selon les inspirations de Grégory et selon ce qu'il jugera pertinent. En tout cas, pour les quarterbacks et pour les running backs aussi que vous aurez vendredi, ce sera cette construction-là. Mais encore une fois, ça peut changer et sans plus attendre. Et ben, on va rentrer dans le vif du sujet juste après un jingle. Wild thing. Burrow's got time, launching for the end zone, jump ball, touchdown, Terrence Marshall. It's a trifecta that very few have achieved. Win the Heisman, perfect season, national championship. Les quarterbacks de la QV 2020 de la draft. On rappelle, la draft NFL aura lieu du 23 au 25 avril au moment où on se parle parce que pour l'instant elle n'a toujours pas été décalée et que Roger Goodell a dit qu'elle aurait lieu du 23 au 25 avril. On va commencer donc avec les principaux quarterbacks, les 3 stars, le chapeau 1, tu as appelé ça comme ça. Donc le premier chapeau avec les 3 leaders, Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert. On en a tous les 3 parlé dans le top 15, donc je vais rappeler juste les mentions de chaque bonhomme. Joe Burrow, c'est 1m93, 98 kg, il sort de LSU, il est senior. Tua Tagovailoa, c'est 1m83, 98 kg, il est plus petit, il sort d'Alabama, il a eu une blessure à la hanche dont on va parler. Et Justin Herbert, le plus grand, 1m98, 108 kg, il nous arrive de la fac d'Oregon, il a 22 ans. Alors, plutôt que de repasser un par un en revue, vu qu'on l'a fait dans le top 15 et je vous y réfère, hein, c'est un podcast qui n'est pas si vieux, il a peut-être un mois, je vais revenir avec des questions générales sur le trio, si tu me permets. Déjà, tu es manager, tu as besoin d'un quarterback. Toi, tu choisis lequel?
À l'heure actuelle, quand même, Joe Burrow, qui présente un peu plus de garanties. Je vais le dire en amont, hein, si je peux me permettre une petite introduction. C'est vrai que c'est une classe très particulière parce que il y a quand même pas mal de profils assez intrigants, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont eu, on va dire, des soubresauts, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire qu'ils ont eu une saison totalement différente de la précédente, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Il y a beaucoup de cas de figure comme ça. Joe Burrow en fait partie, parce qu'il y a eu une saison 2018, on l'a dit, qui était quand même assez, on va dire, quelconque. Et une saison 2019 où il a vraiment explosé, recordman du nombre de passes de touchdown dans l'histoire du college football, ce qui n'est pas rien. Bien entendu, le Heisman Trophy et le titre universitaire pour les Tigers dans la foulée. Donc voilà, il a vraiment développé, comme je disais lors du précédent podcast, vraiment mis en avant ce côté vraiment confiant, cette rapidité d'exécution qui est toujours bienvenue pour un quarterback en NFL, ce sens de l'improvisation également, avec de nombreuses séquences où il a vraiment impressionné. Il a démontré une certaine mobilité, une capacité à prolonger les jeux de manière efficace. Donc très franchement, que ce soit d'un point de vue santé par rapport à Tagovailoa, ou on va dire d'un point de vue purement confiance par rapport à Justin Herbert, j'aurais tendance à aller plutôt vers le quarterback de Bâton Rouge.
On l'a dit, donc je me suis gouré de fiches, c'est pour ça que j'étais en train de me perdre. Qui a le meilleur bras? Je reste sur les comparaisons entre les trois.
Justin Herbert a quand même un bon bras. Peut-être okay. le meilleur bras des trois, je pense.
Justin Herbert. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Sur les qualités physiques, c'est Herbert. Sur l'intelligence de jeu, de ce que tu m'avais dit la dernière fois, c'est Tagovailoa. Mais Burrow, c'est un peu le meilleur mix, quoi.
Oui, c'est ça. C'est un bon mélange. C'est des choses qui font que... ça veut pas dire que forcément, même si Herbert a les attributs physiques et Tagovailoa a ce QI assez développé, Burrow a peut-être pas au sommet de ces catégories-là, mais il a vraiment tout un ensemble de choses, notamment, je le répète, hein, cette rapidité d'exécution qui est toujours importante, surtout quand on a une ligne un peu poreuse. On sait qu'il est quand même annoncé avec insistance en tant que numéro 1 chez les Bengals, que la ligne offensive, c'était pas forcément l'attrait principal de Cincinnati l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est des qualités, des facultés qui peuvent être importantes à mettre à son crédit, et en effet c'est sans doute le plus complet des trois, malgré des paramètres qui sont peut-être plus importants chez d'autres joueurs.
Meilleure jambe, mobilité, on mise sur qui?
Alors ça, c'est une excellente question.
Parce que c'est important maintenant.
Bah d'emblée, je t'aurais forcément dit Tagovailoa, sauf que forcément la donne a changé avec sa blessure à la hanche. Ça, c'est forcément le principal point d'interrogation qui concerne le quarterback d'Alabama, même si il a un bras et encore une fois une capacité, une gestion intéressante de la poche qui lui permettent forcément de jouer sur d'autres qualités. Mais on sait que la mobilité, c'était quelque chose qui était important pour lui quand il jouait du côté d'Alabama, même s'il utilisait quand même un mauvais escient, ce qui a notamment expliqué de nombreuses blessures. Donc à la limite, qui reste dans la poche, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour lui. Après, pour revenir à ta question, d'un point de vue mobilité, je dirais quand même là encore Justin Herbert, qui a montré notamment une faculté à lancer en mouvement, encore une fois à prolonger des jeux à la course s'il y avait besoin de le faire, avec des formations un peu adaptées. Je pense notamment encore une fois à ce Rose Bowl contre Wisconsin, qui est pas l'une des plus mauvaises défenses du college football, où il marque 3 touchdowns, et c'est pas que des positions goal line, il va vraiment les chercher au sol. Donc c'est d'un point de vue mobilité, j'irai encore vers le quarterback d'Oregon.
Niveau mental, on avait parlé un petit peu de Justin Herbert dans l'émission précédente, qui avait eu des reproches un petit peu que tu trouvais pas justifié. On est sur 3 quarterbacks solides.
Oui, Justin Herbert, je l'avais dit, en fait le principal point d'interrogation, c'est vraiment le côté c'est d'un point de vue mental, dans le sens où encore une fois c'est un joueur qui peut prendre feu sur pas mal de séquences. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas un joueur qui va réussir d'emblée en NFL, mais si on lui laisse vraiment du temps, je pense qu'au bout de 2-3 saisons, ça peut vraiment être un franchise quarterback très intéressant, parce que il a des moments où il va prendre feu, comme il y a des moments où il va s'éteindre complètement. Et ça, pour le coup, on l'a pas vraiment ressenti chez Joe Burrow, même si on le juge notamment sur la saison 2019, on l'a pas forcément ressenti chez Joe Burrow, et pas non plus chez Tua Tagovailoa. Donc ça, c'est sûr que c'est un point d'interrogation majeur concernant le joueur des Ducks.
Alors, quelle est l'équipe idéale pour chacun de ces joueurs? Il faut rentrer aussi là-dedans, tu l'as dit, les Bengals. Alors, non, mais parmi ceux qui ont des choix hauts, hein, on va pas évidemment faire, faire tout le monde et s'il y a des quarterbacks en place, mais en gros, on voit Joe Burrow numéro 1 pour les Bengals. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que tu verrais, je sais pas, Tagovailoa mieux? Alors, précisons, tiens d'ailleurs, depuis la dernière émission, tu as Tagovailoa, semble aller mieux au niveau de sa hanche. Ce matin, on a même publié dans le petit déjeuner le fait qu'apparemment les médecins lui donnent le feu vert et qu'il est aussi incroyable que ça puisse paraître après une fracture de la hanche il y a 5 mois, mais il a l'air d'être prêt. Voilà, il est prêt sans limitation.
Après, ce qui fait un petit peu peur, forcément, c'est que le contexte actuel fait que forcément, il y aura pas forcément des tests aussi poussés que les précédentes années de la part des équipes NFL, et c'est ce qui commence à faire un peu peur. Il y a d'ailleurs pas mal de rumeurs qui circulent sur le fait que Herbert aurait un peu plus les faveurs de certaines franchises par rapport à Tagovailoa. Et je pense que c'est pas uniquement d'un simple point de vue talent, c'est vraiment voilà, que justement c'est quelque chose où faut pas oublier qu'il y a de très fortes chances que Tagovailoa ne joue pas l'exercice 2020. Donc si on part du principe que Burrow a quand même une grosse chance de finir à Cincinnati, la question c'est de savoir où Tagovailoa a le plus intérêt à tomber en 2020. Les deux points de chute les plus probables, c'est du coup les Dolphins et les Chargers, qui à l'heure actuelle ont respectivement Fitzpatrick et Taylor en quarterback numéro 1 à l'instant où on se parle. Donc c'est sûr que Tagovailoa à Miami par exemple, même si on sait qu'ils ont l'air faut toujours se méfier des écrans de fumée, mais on sait qu'il y a des rumeurs sur Miami qui expliquent qu'ils sont peut-être un peu plus chauds sur Herbert. En tout cas, Tagovailoa à Miami avec le style de jeu d'un Fitzpatrick, c'est pas forcément quelque chose qui serait déconnant. Et voilà, vu ce que propose l'ancien quarterback de Tampa, il y a quand même possibilité de laisser Tagovailoa un an à apprendre à ses côtés pour vraiment lui laisser pleinement les clés de l'équipe en 2021. D'un autre côté, Herbert aux Chargers, c'est pareil. On l'a dit, c'est un joueur sur qui il faut pas forcément mettre énormément de pression. D'emblée, il arriverait dans une attaque avec Steichen, le nouveau coordinateur offensif, qui est plutôt axé sur un jeu assez massif au sol. Donc pour le coup, ça peut faire ses affaires et voilà, être un peu plus dans un style offensif à la Oregon. Donc voilà, c'est pour le coup, c'est deux points de chute qui me paraîtraient assez intéressants pour les deux joueurs.
Donc si je comprends bien, t'es plutôt ok avec ce qu'on voit dans la plupart des mock drafts aujourd'hui, qui est Joe Burrow à Cincinnati, Tagovailoa à Miami, Herbert aux Chargers.
Tout à fait.
Ça colle très bien. Bon, après, ça paraît être le scénario le plus probable s'il n'y a pas de mouvement dans les évidemment hors échange, etc. Mais aujourd'hui, donc on aurait un Burrow en 1 à Cincinnati, Tagovailoa en 5 à Miami et les Chargers c'est 6 juste derrière avec Herbert.
Tout à fait.
Et après, est-ce qu'il y a une surprise potentielle, une équipe que tu verrais qui dirait voilà, celui-là il me correspond à fond et je pourrais monter? Alors, je te donne en vrac, il y a du Jacksonville, du Raiders, du Tampa, pourquoi pas, s'ils veulent un Tagovailoa qui dort derrière Brady pendant un ou deux ans.
Ouais, bah, après,
ils ont d'autres besoins.
Je veux pas trop mordre sur une autre rubrique. Après, ça dépend des besoins des équipes. Je pense que Tampa a quand même d'autres besoins à considérer, je pense, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Il verrait plus aller vers le deuxième tour avec d'autres joueurs qu'on va aborder. Mais oui, tu vois, typiquement Jacksonville, Gardner Minshew, on sait qu'il y a une petite hype, le côté personnalité et tout. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un quarterback qui va répondre? Qui va être un vrai numéro 1 dans les années à venir, c'est pas sûr. Mettre un Tagovailoa par exemple derrière en attendant de voir exactement ce qu'il va donner, c'est un pari risqué. Mais bon, ce serait pas comme Arizona qui mise deux premiers tours de suite sur un QB. Gardner Minshew, c'est un joueur qu'on a essayé d'exploiter, qui a alterné le bon et le moins bon l'année dernière. Ça peut valoir le coup. Après, j'ai l'impression que les Jacks sont quand même partis dans une autre politique, de manifestement beaucoup tanker cette année, même si ce mot est officieusement interdit. Ou plutôt officiellement d'ailleurs, mais voilà, c'est à part les Jaguars, je vois pas énormément d'autres points de chute, je t'avoue.
Oui, après je suis en train de remonter un petit peu, mais en effet il faudra vraiment une équipe soit qui mise sur une pré-retraite, mais il faudrait qu'il tombe très loin. Il tombe pas en dehors du top 10 Tagovailoa, grosso modo.
Bah, encore une fois, on n'a pas toutes les indications sur la manière dont il s'est remis, mais oui, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Ouais. Enfin, un tel talent sur un poste aussi important, ça m'étonnerait quand même.
On rappelle encore une fois, c'est ce que tu disais, hein, quand tu parlais du contexte, avec le Covid-19, les équipes ne peuvent pas rencontrer les joueurs avant la draft, et ça rend d'autant plus compliqué les examens médicaux. Donc, en effet, c'est vraiment pas idéal pour les joueurs.
Parce qu'il y a des entretiens qui commencent à se faire via FaceTime. Ouais. Mais voilà, ça permet pas forcément. On sait qu'il y a la possibilité, comme via la free agency, en effet, de faire venir des médecins proches de là où se situe le joueur. Mais voilà, c'est pas forcément des médecins, on dira, de confiance. Donc voilà, se raccrocher à ça quand on sait l'importance des décisions qui sont prises au sein des front office, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais voilà, encore une fois, descendre au-delà du top 10 pour un joueur comme ça. On a vu que Jeffrey Simmons l'année dernière, sur un poste beaucoup moins important, était quand même parti en 19. Quand on a ce type de profil là, voilà, quitte à se dire bon, bazar d'un premier tour, mais au moins on dira qu'on a tenté le tout pour le tout, quoi.
Allez, on passe au chapeau 2 avec un autre grand costaud avec un énorme bras. C'est Jacob Eason, 1m98, 103 kg. Il sort de la fac de Washington State.
Non, Washington,
non, Washington
tout court.
Tout court. Voilà, je sais pas pourquoi je cherchais un state quelque part. 23 touchdowns, 8 interceptions la semaine dernière. Je vais y arriver. L'année dernière, la saison dernière, 64% de passes complétées. Alors, grand costaud, énorme bras. Est-ce qu'on est sur le cliché du projet total?
Est-ce qu'on est sur le projet Bocalan? Non.
Ah, j'en connais un. Est-ce que tu as... Non, tu m'as dit que tu n'as pas écouté l'émission de lundi, mais justement, on parlait de faire éventuellement un live draft day.
Je te rassure, j'ai vu des messages passer sur le chat interne. Je sais que c'est dans les tuyaux. Mais voilà. Non, mais bon, c'est pour taquiner, parce que bon, Jacob Eason, ça reste un projet relativement intéressant. Parcours assez atypique, hein, au niveau du college football. Joueur qui est notamment sorti... recrue importante sortie du lycée, recrutée à l'époque par Georgia, qui a fait une saison avec les Bulldogs, qui, il me semble, pour des soucis de blessure notamment, a perdu sa place au profit de Jake Fromm, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, une année off, et du coup la dernière saison 2019 du côté de Washington, où bon, c'était intéressant. Maintenant, est-ce que c'est suffisamment flashy? Parce que des fois, je le vois sur des premiers tours de draft, de mock en l'occurrence, j'en suis pas encore persuadé. Encore une fois, tu l'as dit, il y a des outils qui plaisent. C'est-à-dire qu'il y a de la taille, il y a un bras qui est canon, il y a un placement qui est quand même assez intelligent et intéressant dans la poche. D'un point de vue... Alors, c'est d'un point de vue menace profonde, encore une fois, de par le bras et mine de rien sa vision de jeu, c'est un joueur assez intéressant à ce niveau-là. C'est plus dans les zones intermédiaires qu'il pose question, avec du coup une précision qui laisse à désirer. En fonction des cas, il va suralimenter, sous-alimenter, c'est un peu délicat. Et il y a une gestion du mental également qui pose question, avec un sens des responsabilités, que ce soit du côté de Georgia ou de Washington. Il est tombé sur des attaques qui étaient beaucoup plus axées sur le sol, donc où il n'était pas forcément le principal dépositaire de l'attaque. Ça dépend ce que tu veux en faire du coup en NFL, mais pour être vraiment un top quarterback, ça m'interroge. Si tu veux, j'aime pas ce jeu là des comparaisons, mais il faudrait pas qu'à terme, dans ce style de jeu uniquement, hein, je parle, il devienne un Joe Flacco, c'est-à-dire un joueur vraiment impressionnant sur la menace profonde, mais qui dans le jeu entre guillemets plus classique pêche un petit peu trop. Donc voilà.
D'ailleurs, oui. Tu dis classique parce que j'ai vu justement qu'il était grand, costaud, mais pas spécialement mobile en plus. C'est pas un phénomène
physique. Par rapport aux trois premiers dont on parlait, la mobilité, c'est pas. Après, il peut se déplacer, mais il a pas une fluidité de déplacement énorme ici. Mais c'est encore une fois, c'est pas ce qu'on lui a demandé en l'occurrence du côté de Washington.
Quel niveau de la draft ça le situe du coup?
Moi, pour moi, c'est le deuxième, troisième tour. Je le vois vraiment peut-être dans la deuxième partie du deuxième. Je pense qu'il y a vraiment une équipe qui aime bien. Tu parlais de Tampa tout à l'heure. Voir Jacob Eason à Tampa pour être formé derrière Tom Brady, c'est pas quelque chose qui m'étonnerait pour les Bucks.
D'accord. Il a le potentiel. Donc toi, tu crois qu'il a le potentiel pour être opérationnel un jour?
Je pense que ça peut être un très bon game manager, parce qu'il y a forcément cette distinction à faire quand même. Après, voilà. Encore une fois, pour être un top quarterback, c'est possible. Tout est question de coaching staff. Je prends l'exemple de Tampa. S'il tombe avec Bruce Arians, avec le bras qu'il a, ce serait peut-être pas déconnant. Et je pense qu'à terme, il y a moyen éventuellement qu'il donne quelque chose. Après, c'est quand même un projet au moins à moyen terme.
On passe à Jalen Hurts, qui est le cinquième nom sur cette émission. Alors Jalen Hurts, c'est un peu le contraire de Jacob Eason. Il fait 1m88, 102 kg. Lui, il n'a pas un gros bras. J'ai lu qu'il n'était pas forcément toujours précis. Alors qu'est-ce que tu lui trouves pour le mettre en cinquième position?
Alors, je vais l'expliquer parce que il y a des gens dont on va parler dans les énigmes qui auraient pu être dans le deuxième chapeau. Jalen Hurts est pas forcément quelque chose qui rassure d'emblée. Après, globalement, on sait à peu près ce qu'on va avoir avec ce type de joueur là. Je parlais d'un profil de game manager pour Jacob Eason. J'ai du mal à voir Jalen Hurts dans un autre profil que celui de game manager. Il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur Tyrod Taylor et ça me paraît assez justifié. C'est vrai qu'il a en effet une capacité à punir les adversaires au sol. C'est un excellent athlète, il y a pas de sujet là-dessus. Intéressant sur les zones intermédiaires, et là par contre en l'occurrence contrairement à Jacob Eason, dans le jeu profond c'est beaucoup plus délicat. Oklahoma où il a fait son cursus, parce que c'est aussi un autre joueur transféré qui a commencé à Alabama notamment.
Oui, bah, il s'est fait piquer sa place par Tagovailoa.
Exactement. Et du coup donc il a atterri à Oklahoma en 2019. Les Sooners qui avaient un jeu vraiment très explosif, très aérien et très vertical, avec notamment les deux Heisman Trophy Baker Mayfield et Kyler Murray, a quand même dû adapter son cahier de jeu pour lui, de par les lacunes qu'il représentait quand même dans ce registre-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut difficilement occulter. Mais voilà, c'est un joueur solide. Franchement, mentalement, avec les... on dira les remises en question qu'on a émis à son sujet. Voilà, c'est un joueur qui a vraiment un gros gros mental là-dessus. Donc je ne me fais pas de doute sur le fait qu'il pourra intégrer une équipe NFL, voire être un très bon numéro 2. Voilà. Après, pour être un top quarterback, c'est un peu compliqué. Il a en plus une sécurité du ballon qui pose un peu question. Donc voilà, encore une fois, je le dis, la comparaison qui revient le plus, c'est Tyrod Taylor. Et c'est ce qui me paraît à peu près correspondre à son profil.
Il est à 32 touchdowns, 8 interceptions l'an dernier, et si je dis pas de bêtises, c'est l'attaque où Baker Mayfield et Kyler Murray lançaient 50 touchdowns par match.
Tout à fait.
Donc oui, ça en fait, c'est quand même un cran en dessous. Quel niveau de la draft et quelle équipe, si t'en as une qui te vient à l'esprit au niveau du système?
Il y a forcément ces qualités athlétiques qui le font un peu hypé, je dirais, aux yeux des franchises. Franchement, pour moi, au mieux, c'est une fin de troisième tour.
Fin de troisième tour. Ouais. C'est vrai que je m'en rappelle en plus de ses débuts à Alabama. Oui, après il a un peu voyagé. Bon, ce sera surveillé. Donc un bon remplaçant.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est voire même un quarterback qu'on peut utiliser sur des trick plays ou ce genre de choses en position.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Son goal line, franchement, je pense que c'est pas déconnant, mais... très franchement, autant de Jacob Eason, je pense qu'il y a une marge de... il y a une possibilité quand même pour qu'il devienne numéro 1 dans le futur. Jalen Hurts, ça me paraît quand même un peu compliqué. La marge me paraît encore un peu haute à l'heure actuelle.
Petite pause et on passe aux énigmes et aux bonnes affaires.
Hey, this is David Carr and you're listening to the Touchdown Podcast. Enjoy the show.
On continue ce podcast de présentation des quarterbacks de la draft NFL 2020 avec Grégory Richard. Et Grégory, on va passer à une catégorie qu'on a baptisée et que tu as baptisé les énigmes. Mmh. Alors, juste pour définir, énigme, c'est quoi? Ça veut dire que le mec peut être une superstar ou un bust?
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, ouais. Parce que j'aime pas le terme de bust. Surtout pour les quarterbacks où on sait que je me trompe beaucoup. Donc, ouais, énigme, ça me paraît pas mal. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, ouais.
Oui, mais ce que les auditeurs apprécient, c'est ta capacité à le reconnaître. Et ça, c'est important. On le rappelle souvent, ce n'est pas une science exacte et on n'impose pas une vérité absolue. On fait de notre mieux comme tout le monde. Le premier, c'est Jordan Love. Jordan Love, il fait 1m93 pour 102 kilos. Évidemment, en plus d'avoir un nom de famille très poétique, il a l'air d'avoir tous les outils en termes de physique et de précision. Ouais. Alors encore une fois, je rappelle à nos auditeurs que sur les podcasts draft, moi, je joue le rôle de celui qui fait une recherche Google sur le mec. En gros, Grégory, c'est le fact-checker qui me dit si j'ai vu des trucs bien ou pas. Donc, il a l'air d'avoir tous les outils en termes physique et précision. C'est plus au niveau de la lecture du jeu qu'il semble y avoir des soucis.
C'est un peu ça. C'est vrai que... Alors, je parlais de ces fameux quarterbacks qui ont eu, on dira, des trajectoires totalement différentes au cours de leur cursus universitaire. Jordan Love est vraiment l'exemple parfait pour ça. Avec une saison 2018 où il a été vraiment parfait du côté de Utah State, où il a permis au programme de revenir au premier plan de la première division universitaire. Et une saison 2019 où il y a eu un changement de coaching staff, où il y a eu pas mal de départs en attaque. Je pense notamment au running back Darwin Thompson qui était chez les Chiefs l'année dernière. Et où pour lui, ça s'est quand même beaucoup plus compliqué. Une année 2019 vraiment pourrie avec beaucoup trop d'interceptions en l'occurrence. Et c'est vrai que Jordan Love, c'est un profil qui est assez intrigant. Tu vois, si on part d'un point de vue projection, en l'occurrence, il y en a beaucoup qui l'annoncent possible au premier tour, ce qui serait pas déconnant en l'état. Hein. Encore une fois, c'est un joueur qui a les aptitudes physiques, enfin le gabarit et cette capacité à prolonger les jeux. Et surtout, je trouve ce qui est intéressant, c'est vraiment de lancer dans le bon tempo. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il n'a pas peur des prises de risque, mais c'est aussi ce qui lui a été préjudiciable en 2019 avec beaucoup de choix extrêmement douteux. Justement, tu le disais, de par une lecture un petit peu bâclée et aussi de par une certaine précipitation sous la pression, une pression qu'il a beaucoup plus ressentie en 2019 que l'année d'avant. Donc du coup, ça interroge. Est-ce que Jordan Love, c'est vraiment un quarterback capable d'être titulaire d'emblée? Pour moi, rien n'est moins sûr. On va reprendre le jeu des comparaisons. C'est sans doute lié au fait qu'il joue avec un numéro 10 et qu'il joue avec un maillot bleu du côté d'Utah State, mais il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur Colin Kaepernick. Ça me paraît pas déconnant, très franchement. Après, la question, c'est encore une fois sa marge de progression et sur quel profil on va tomber. Est-ce que c'est vraiment son année 2018 qui était énorme et derrière, bon, il est rentré un petit peu dans le rang, ou est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir eu un environnement un peu néfaste l'année dernière qui a fait que du coup, bon, il a joué un peu contre nature et il a peut-être pas optimisé l'arsenal à sa disposition. C'est là encore, ça va être c'est une autre sorte de voir exactement ce qu'on est prêt à investir pour aller chercher un joueur de cette trempe-là.
C'est marrant, j'avais lu une comparaison avec Blake Bortles, c'était reçu, du coup elle est moins.
Oh bah peut-être, Bortles avait une certaine mobilité également, ça peut, mais bon, tu préfères Bortles ou Kaepernick? Je crois que t'es plus Kaepernick.
Ouais, plus Kaepernick. Au moins il servira à quelque chose en dehors du terrain, c'est déjà ça.
Bon, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est insiste bien sur le côté énigme. Voilà, il peut être un quarterback titulaire en NFL, maintenant qu'est-ce que ça va donner, c'est toute la question.
Donc t'as dit, ça peut monter jusque fin de premier tour.
Oui, je pense. Très franchement, je ne serais pas étonné aux alentours de entre 20 et 30, je ne serais pas surpris. Moi, dans mon board perso, enfin, je sais plus où je l'avais mis à l'époque, mais ouais, il devait être début, milieu de deuxième tour.
T'inquiète pas, on va en parler de ton board à la fin. Pour chaque poste, je vais te demander de refaire un petit classement des mecs dont on a parlé dans l'émission. Je t'avais pas prévenu. Le suivant, l'autre énigme, la deuxième, c'est Jack Fromm. Justement, t'en as parlé un petit peu, tu l'as évoqué. Alors lui, c'est un peu tout l'inverse. 1m88, 99 kg de ce que j'ai lu. C'est l'inverse, c'est excellente prise de décision, bon timing, intelligence, mais bras limité, pas très mobile, pas très grand.
Ouais. Alors c'est là aussi c'est une énigme dans le sens où alors c'est moins une énigme que Jordan Love pardon dans le sens où Jake Fromm malgré tout il est un peu sur une pente glissante et descendante ces dernières années du côté de Georgia. On l'a dit, il avait pris la place de Jacobison à l'époque du côté d'Athènes. Et c'est vrai que on a du mal à en voir autre chose ces derniers mois qu'un simple profil de game manager. En effet, il y a quand même une certaine intelligence de jeu, il y a un bon placement notamment dans les zones intermédiaires. C'est un joueur qui n'est pas vraiment réputé pour prendre une grosse prise de risque, mais en même temps, tu l'as dit, vu sa qualité de bras et vu sa lecture notamment sur le jeu profond qui laisse un peu à désirer, vu le style de jeu également de Georgia, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'était quand même un jeu qui était essentiellement axé sur le sol. Ça lui a pas forcément permis de se développer réellement, mais ça légitime pas, on dira, certaines failles mentales qu'on a pu constater, une certaine lenteur au niveau du lancer, et ce malgré l'énorme ligne offensive qu'il avait. Je pense notamment, si certains veulent voir ces matchs, hein, les deux matchs contre LSU et contre South Carolina, c'est des matchs où limite il perd le match tout seul, j'exagère, celui contre LSU, bon, il joue contre le rouleau compresseur, mais celui contre South Carolina, Georgia ne doit jamais le perdre s'il n'y a pas les trois interceptions de Jake Fromm. Donc voilà, encore une fois, c'est là on est vraiment dans le profil vraiment pur projet. Il ne faudra pas attendre quelque chose de lui dès la première année. Et je pense que c'est quand même beaucoup dépendant du coaching staff dans lequel il va tomber. S'il tombe dans un coaching staff où le poste de quarterback n'est pas la priorité, il ne faudra clairement pas s'attendre à une amélioration, à une progression significative dans les années à venir.
Quel niveau de la draft ?
C'est un peu comme Jalen Hurts, je dirais fin 3e, début 4e, en l'état actuel des choses.
C'est quoi le meilleur scénario du coup pour son développement ? Parce que justement, avec ce que j'avais lu sur lui, moi je m'étais imaginé que c'était un peu Chad Pennington, tu vois, genre... Pas le meilleur bras, pas le meilleur machin, mais intelligence de jeu.
Le meilleur scénario, dans quel coaching staff je le verrais bien tomber ?
Non, mais je veux dire, quel joueur il deviendrait dans le meilleur des cas, quoi.
Tu veux une comparaison ?
Ouais.
Eli Manning ?
D'accord. Non, mais oui. C'est un,
Près, quoi.
Ouais, c'est un Chad Pennington plus rock'n'roll.
Voilà. Alors après, je sais que je prends des comparaisons. Je compare Eli Manning, Joe Flacco, mais vous avez bien compris que voilà, c'est.
Oui, c'est les grandes lignes. Hein, c'est pas.
Voilà, tout est question de contexte, etc. Je parle vraiment du profil pur du joueur. Hein. Ça ne veut pas dire que forcément ils vont faire gagner un Super Bowl à leur équipe. Hein.
Jamais personne n'aura le charisme et le charme d'Eli Manning, par exemple. On sait très bien que voilà, c'est pas reproduisible. C'est pas. Je suis désolé. Tu m'as dit quel niveau 3e, 4e tour, hein, c'est ça ?
Ouais, fin 3e, début 4e à peu près.
Alors, on passe aux bonnes affaires. Et alors là, on commence avec Anthony Gordon. Alors, je dois te le dire, il n'est pas très haut forcément dans les classements de quarterback de la draft. J'ai mis un petit peu de temps à le trouver quand tu m'as donné son nom. Il vient de Washington State. Bah voilà, c'est pour ça que j'avais un Washington State en tête. Il fait 1m91 pour 95 kg. Et alors, j'ai trouvé un article formidable. Je crois que c'était Bleacher Report. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Qui l'appelle « The Next Minshew ».
Bah forcément, pour le coup, tu vois, alors il est pas très haut, d'où le concept de la bonne affaire. Après, je vais relativiser tout de suite, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, sur le poste de quarterback, c'est très compliqué, parce que forcément, c'est un par poste, donc faut pas s'attendre non plus à avoir 12 bonnes affaires dans une draft. On l'a dit, il y a quand même 3 premiers joueurs qui sont assez intéressants dans cette classe. Donc les autres joueurs, ça veut pas forcément dire, les bonnes affaires dont je vais parler, ça veut pas forcément dire qu'ils seront quarterback titulaires. Très rapidement en NFL, mais en tout cas ils ont vraiment un potentiel qui je trouve est très intéressant pour être au moins dans un premier temps backup, voire derrière mettre la pression sur le titulaire. Tu disais Anthony Gordon, Washington State, forcément il y a la hype Minshew avec des quarterbacks de Washington State ces dernières années qui ont quand même un petit peu le vent en poupe. Alors Anthony Gordon, on le dit tout de suite, c'est une année d'expérience vraiment du côté de Washington State.
Mais je crois que c'est le profil, hein, le parcours aussi qui leur inspirait ça, parce que donc zéro étoile à la sortie du lycée, pas recruté, 4 saisons sans jouer, quoi.
Voilà, c'est un peu ça. Donc il a vraiment joué sur le tard, il a dû vraiment attendre son heure du côté de Washington State. Donc c'est vraiment un joueur qui est très brut. C'est-à-dire que il y a beaucoup de paramètres techniques, beaucoup de paramètres même mentaux, on va dire, qui sont encore à optimiser. Il y a des matchs, il me semble que c'est contre Washington notamment, où il s'est vraiment liquéfié. Je crois qu'il doit y avoir au moins 4 interceptions. Après, c'est aussi le contexte de l'attaque des Cougars qui veut ça. C'est-à-dire que Washington State, c'est coaché par Mike Leach, hein, qui est quand même une des références offensives au niveau du college football, où ça joue très vertical, très axé sur la prise de risque, hein, avec des quarterbacks qui peuvent lancer jusqu'à 70 ballons dans un match.
Alors, j'allais préciser pour nos auditeurs qu'en effet, ce garçon a joué 13 matchs, ce qui lui a donné le temps de lancer 5579 yards et 48 touchdowns l'an dernier. On rappelle que dépasser les 5 milliards dans NFL en 16 matchs, c'est déjà une très très belle performance. Donc là, en 13, voilà. Ça carbure.
Alors après, c'est vrai qu'il s'est beaucoup relativisé par le fait qu'il jouait aussi beaucoup sur de la screen.
Okay.
Ce qui est vrai aussi, hein, il y a un jeu qui est axé sur de l'espace également du côté de Washington State et qui permet au running back d'avoir la possibilité après la réception de glaner beaucoup de yards. Donc c'est sûr que ça a joué en sa faveur. Maintenant on sait que le jeu en screen c'est de plus en plus utilisé en NFL et Anthony Gordon est un joueur qui est parfaitement capable de se débarrasser vite du ballon, notamment par le biais de running back. Donc s'il a un running back solide à ses côtés, c'est pas quelque chose qui va poser problème. Il a un bras qui est correct, même s'il est pas extraordinaire, mais comme je le disais, il y a quand même un enthousiasme qui est un petit peu à contenir. Ce côté YOLO où faut absolument lancer un ballon parce que du coup c'est trop fun. Voilà, faut essayer vraiment de le canaliser un peu. Si je prends la comparaison, c'est un peu un anti Jake Fromm. Fromm, faut lui donner un petit grain de folie pour qu'il arrive quand même à franchir un certain palier. Anthony Gordon, faut lui rappeler un petit peu les limites, le recadrer très clairement pour réussir à en faire quelque chose de poli, on dira, du côté de la grande ligue.
Bon, en tout cas, il y a dans le papier de Bleacher Report, il y avait des trucs incroyables, un super ballon en profondeur, polyvalence sur tous les lancers qui rappelle Patrick Mahomes. Enfin, il y avait c'était dithyrambique, hein. Alors par contre, il y a des commentaires, moi je disais que notamment il avance jamais dans la poche, il recule, il fait des erreurs bêtes, voilà. Donc il y a quand même
Oui, non mais c'est ça, c'est une inexpérience et encore une fois, c'est bon. Alors du côté de Washington State, il aurait eu notamment, je pense, André Dillard l'année d'avant, ça aurait peut-être fait la différence. La O-line de Wazoo, comme on l'appelle, a peut-être un petit peu décliné en 2019 également, mais c'est sûr que de toute façon, d'un point de vue intelligence de jeu, je te mentirais si je te dirais que c'est le quarterback le plus aguerri de cette classe, hein. Il y a encore pas mal de boulot et voilà, là c'est vraiment un pur projet qui peut à terme devenir une bonne affaire.
À quel niveau de la draft, d'après toi, il va tomber?
Je le vois quand même 5-6.
D'accord. Bah, ça a fait comme Minshew qui avait été 6, non?
Je me demande si Minshew a été drafté, hein, j'ai un doute.
Si, je crois 6, non? Je vais vérifier pendant que.
C'est
on
possible,
parle du prochain.
Regarde, j'ai un doute.
Mais donc, oui. Autour du 5-6, tu m'as dit alors.
Ouais.
On est là-dessus, 6e tour pour Minshew, 178e choix. Mieux que Tom Brady. Jack Lutton est le dernier au niveau des bonnes affaires. Alors, j'ai pas trouvé sa date de naissance, mais il a fait 3 facs depuis 2014. Ça fait 6 ans qu'il est à la fac. Il a quel âge?
Je t'avoue que j'ai pas regardé son âge.
Il va se pointer sur le podium avec la barbe blanche de notre premier ministre. On va pas comprendre. Hein. Edouard Philippe, putain, je sais même plus le nom du premier ministre. Bon, en tout cas, ça fait 6 ans qu'il est à la fac. Gros spécimen physique, mais grosse lacune de jeu.
Ouais, même si je trouve que justement, il a eu un petit peu de mal, tu le disais, à trouver vraiment un point de chute. Après, on voit que c'est quand même un joueur qui a un bagage assez intéressant du côté d'Oregon State, qui reste sur une très bonne saison. C'est un joueur qui a progressé constamment ces dernières années du côté des Beavers. Et je trouve, là, c'est un terme qui revient beaucoup, hein, encore une fois, je suis désolé, mais voilà, c'est un game manager, on va dire, qui joue très juste. Voilà, qui est pas. Et lui aussi, lui manque un petit peu ce côté grain de folie et cette précision, parce qu'en l'occurrence, Oregon State, ça jouait quand même très vertical également, même si c'était quand même beaucoup plus équilibré que ce qu'on peut voir à Washington State. Voilà, c'est aussi un joueur qui, en étant canalisé, sachant que lui, pour le coup, a quand même une intelligence de jeu assez notable, je pense qu'il y a quand même pas mal d'outils, on dira, à disposition des coachs pour en faire un joueur intéressant. Et c'est un joueur qui, on l'a vu sur certains matchs, peut prendre feu sur certaines séquences. Donc vraiment, avec le plein de confiance et encore une fois ce côté un peu moins foufou et je sais pas comment dire ça, voilà, peut-être avec un environnement un peu plus structuré, ça peut être vraiment un joueur assez intéressant. Et en tout cas, c'est un nom qui était pas du tout considéré il y a quelques mois et qui commence à grimper un petit peu. Là, à l'heure actuelle, je pense qu'il est aux alentours du 6-7e tour.
Je l'ai pas précisé, c'est un beau bébé, hein, 1m98, 104 kg, oui. Au niveau des mensurations, on est sur du costaud. Il peut les bouger, cette carcasse, ou pas?
C'est pas sa faculté première.
Ouais. Bon, c'est juste. Je vérifie maintenant pour tous, parce qu'on l'a déjà dit dans plusieurs émissions au fil de l'année, qu'il faut que les quarterbacks puissent bouger un minimum maintenant. Et
oui,
que ça
oui,
rentre
non,
dans
c'est
standards.
Sûr, c'est sûr. C'est pas. C'est voilà, c'est sûr que maintenant il faut quand même être capable de prolonger les jeux suffisamment. Mais franchement, dans la poche, Jack Lutton, c'est quand même assez solide. Voilà, c'est pas un joueur qui part à l'aventure, qui se retrouve sous pression facilement. En tout cas, c'est pas l'impression que j'en ai eu en voyant ces matchs du côté d'Oregon State.
Et tes bonnes affaires, là, que ce soit Gordon ou Lutton, dans une situation un peu rock'n'roll où ça se blesse devant, etc., ils pourraient faire des trucs la première année, comme un Minshew, par exemple, dont on parlait.
Tu vas me faire prendre des risques, j'aime ça.
Bah oui. Je suis là pour ça.
Écoute, encore une fois, de par ce que je disais, j'ai plus confiance en Lutton pour surprendre. Dans un scénario que tu évoquerais plutôt qu'en Gordon. de part, encore une fois, le, voilà, le côté, le bagage, ne serait-ce que technique, à appréhender petit à petit. Voilà, je pense que Luton a suffisamment ça. Il a un peu le parcours de Minshew, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Minshew, on prend le côté comparaison Washington State, mais il a pas mal bourlingué aussi avant d'arriver en NFL. Et voilà, c'est un joueur qui, c'était un joueur assez intelligent, mais qui avait besoin en effet d'un environnement assez propice. Jake Luton peut avoir ces capacités-là.
Luton, il a joué, alors il a signé avec Idaho au début, il a été redshirt sa première saison, ensuite il a joué 8 matchs, il a été transféré à Ventura College pour sa saison sophomore où il a joué 11 matchs, et ensuite il a été transféré à Oregon State où il a été redshirt junior avant de gagner le poste. Voilà, pour vous. Donc il a pu faire 2 années redshirt, c'est possible ça ?
Bah tu vois, je le découvre. Non, je pensais pas qu'on pouvait faire 2 années redshirt. Après, je sais pas si le fait d'avoir joué sa 2e année en community college, parce que je pense que c'est un community college
dont
tu
parlais. C'est possible, oui.
Voilà, peut-être que ça lui a fait annuler l'année redshirt qu'il avait pris avant, vu qu'il avait pas joué, je sais pas. Je t'avoue qu'il y a un petit flou, parce qu'en plus, comme ils ont changé les règlements il y a peu de temps, la fameuse jurisprudence Baker-Mayfield, voilà, c'est un petit peu flou, donc ouais, ça me paraît étonnant aussi, mais peut-être que ça explique cela.
Attends, rassure-moi, ils ont changé les règlements, mais ils ont toujours le droit d'accepter les pots de vin, les prostituées et la drogue.
Oui.
Ah bon.
Alors, bien sûr, mais de toute façon, c'est écrit nulle part, donc ça, ils pourront jamais le changer, officiellement.
Pour assurer les signatures des meilleurs joueurs, évidemment. Donc, c'est dans League of Game, mais c'est plus pour le basket, je crois que vous pouvez voir ça aussi. On termine, comment on va terminer les autres émissions ? On a parlé de Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert, Jacob Easton, Jalen Hurts, Jordan Love, Jake Fromm, Anthony Gordon, Jake Luton. Tu es manager général des London Marmites, expansion franchise qui viennent tout juste d'être créés. Tu as le choix de prendre un quarterback à la draft. Dans quel ordre tu choisis ? C'est purement le tien. Me dis pas si je suis une franchise NFL, etc. Toi, lequel tu préfères avoir dans ton équipe dans l'ordre de ces mecs-là ?
Moi, la blessure de Tagovailoa m'inquiète quand même. Donc, je te dirais Burrow, Herbert... Burrow, Herbert, bon, quand même Tagovailoa en 3. Il y a quand même un gros écart entre les 3 premiers et le reste, selon moi. Hein.
Okay. Okay.
Love en 4, Eason en 5. Ouais, après, je te dis, Fromm en 6, Hurts en 7 et Luton 8, Gordon 9.
Ok, et ben voilà, vous avez le top 9 des quarterbacks pour la draft NFL 2020. Merci beaucoup Grégory.
Toujours un plaisir.
Et on se retrouve pour beaucoup, beaucoup d'autres épisodes. On le rappelle, hein, pendant le mois d'avril et le confinement, et on espère que ce sera que le mois d'avril quand même, on se retrouve 3 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, c'est draft, en tout cas pendant les 2 semaines à venir. Après, il y a la draft qui arrive, donc je ne sais plus comment on fait, mais on fera lundi et mercredi. Je sais qu'il y a un live qui est prévu la veille. Enfin, vous avez tout le programme sur le site, il va se passer plein de choses. On fera une mock draft la veille de la draft. On va essayer de faire ça en vidéo. On est en train de peaufiner, on est un peu comme tout le monde, hein. On s'adapte à la situation et on teste des trucs, des nouveautés techniques pour essayer de faire quelque chose de propre. On va devoir s'adapter pour le premier tour de la draft aussi qu'on faisait en direct l'an dernier. On avait fait le top 10 en direct, ça avait été très sympa. Le problème, c'est qu'à première vue, ça va être compliqué d'être sur le même canapé cette année. Donc il va falloir qu'on voit techniquement ce qu'on peut faire, mais voilà, on va s'arranger. Camille bosse en coulisses aussi, on cherche des solutions. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et encore une fois, restez à l'abri, restez chez vous et on espère que tout va bien pour vous. Merci encore Grégory. C'était donc l'épisode 347. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu, les réseaux sociaux @TieloRadio, ça pour Grégory si vous avez des questions sur la draft, @AlainMatei pour moi-même, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @CamilleSarabène pour nos 3 amis qui ne sont pas là aujourd'hui. Et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur TDActu.com. On se retrouve très bientôt, la prochaine émission ce sera les Running Back. À très bientôt, ciao ciao. Fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.